Radio Uz.
Radio Uz, Festival du Zest en direct.
Nous avons la chance d'avoir avec Sia un témoin de première main de cette catastrophe. Au fait, tu es prof de quoi, Sia ?
Histoire.
Prof d'histoire, ok. Sia, comme d'habitude, dans ce genre de situation, les femmes sont les premières victimes de la remise en cause, finalement, de la plupart des acquis, quoi.
Merci. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier, notamment Lydie et Véronique, d'avoir l'idée de m'inviter à ce festival extraordinaire, que c'est un festival unique où l'art coexiste avec le syndicalisme et il crée un rapport dialectique entre la réflexion et l'art, la vie quotidienne, les problèmes quotidiens des citoyens. C'est magnifique et vraiment je suis ravie d'être avec vous. Je voudrais vous donner quelques éléments comme ça de la situation des femmes en Grèce avant la crise, avant 2009, pour voir comment s'était dégradée la situation des femmes, et pas seulement des femmes d'ailleurs, de toute la société grecque, après la crise. Alors, comme Lydie a dit pour l'Italie, la Grèce est la même chose. La participation massive des femmes dans le travail, bien que la contribution des femmes à la production à travers les travails non rémunérés et dans les exploitations agricoles familiales ou dans les entreprises et le travail informel dans les villes, a été très important tout au long du XXe siècle. Ce que je pourrais dire, c'est que la situation de la femme change, s'améliore et spectaculairement après la suite de la dictature. La Grèce avait la dictature jusqu'en 1974. Alors, la situation de la femme s'améliore avec l'amélioration de la démocratie. C'est très, très, très utile de le garder ça à la tête, que l'égalité, l'égalité des sexes, l'égalité au travail, l'égalité des citoyens va avec la démocratie. Alors, à partir notamment de 1981, le taux de femmes au travail rémunéré augmente drastiquement et jusqu'à 2000. Il faut éviter les mots difficiles à prononcer. Alors, jusqu'à 2009, les femmes participent au travail avec un taux de 48,7%, qui est le plus haut taux qu'on avait en Grèce jusqu'à maintenant. Alors, ce qui a beaucoup changé en Grèce des années 80 jusqu'à 2008, c'est qu'on a eu la féminisation, si vous me permettez, de l'état de providence. Et la féminisation aussi de l'espace public. C'est-à-dire que les femmes deviennent visibles, sont devenues visibles en Grèce grâce à un état de providence qui a commencé à créer des crèches, à prendre en charge des personnes âgées. Alors les femmes ont commencé à se libérer des soins qu'elles avaient toujours sur leurs épaules. Alors, en 1985, en plus, il y a eu la fondation du secrétariat général de l'égalité des sexes, ce qui a fait à ce que la violence dans la maison et tout ça soit baissée considérablement en Grèce et la situation vraiment a changé. Mais ce qui a beaucoup aidé les femmes de sortir au travail, c'était aussi les émigrés, les femmes émigrées. Il ne faut pas nier ça, parce que surtout pour les femmes de la moyenne bourgeoisie qui avaient une économie de frais, oui, d'argent pour payer, les femmes émigrées ont vraiment libéré les femmes grecques, parce que c'est elles qui ont pris en charge les enfants, les personnes âgées, etc. Tout ça a commencé à s'est détériorée, et toute cette situation, tous ces progrès, disons, qui n'étaient pas, bien sûr, ce n'était jamais assez, mais c'était quand même quelque chose pour les femmes grecques, cette amélioration a commencé à reculer à partir du moment où en Grèce a commencé à être appliqué ce qu'on dit mémorandum, c'est-à-dire le programme d'ajustement structurel et imposé par la Troïka. Et au début, c'était les hommes qui étaient beaucoup plus attaqués par le programme, mais tout de suite après, on a vu que c'est des femmes aussi, mais encore pire pour les femmes. La première chose que je veux vous dire, c'est depuis maintenant presque 4 ans de crise, le chômage a monté de 11% qui était avant la crise à 27,4% maintenant. Et ça, c'est le taux officiel, parce qu'il y a le chômage non enregistré qui atteint maintenant le taux de 30 à 33%. Pour les femmes, c'est encore plus considérable. Pour les jeunes, je ne parle pas. Pour les jeunes, c'est au taux de 64%. Et pour les femmes, les jeunes femmes, c'est à 68%. Vous imaginez qu'une jeune génération est complètement, complètement détruite à ce moment-là. La plupart partent comme immigrés, l'autre reste en Grèce sans rien faire. Les conditions de travail sont complètement changées. Il n'y a aucune sécurité, aucune sécurité. Et je ne peux pas expliquer cette situation dramatique parce que nous-mêmes, on ne peut pas croire. On ne peut pas croire que dans 3 ans, une catastrophe complète pouvait s'établir d'une telle manière. On n'a pas encore réalisé, on n'a pas conscience de la profondeur de la catastrophe. On peut, pendant la discussion, de vous donner des détails, mais maintenant je vais vous décrire seulement la situation générale. Par exemple, c'est la première fois dans l'histoire grecque qu'on a depuis 1936 qu'on a des licenciements massifs du secteur public. La dernière loi, sous les ordres de la Troïka, c'est qu'il faut jusqu'à 2015 que 150 000 personnes du secteur public soient virées ou soient mises en disponibilité. Maintenant, on découvre toujours des termes, de nouveaux termes. Le nouveau terme, c'est disponibilité, ce qui veut dire qu'on met les personnes en disponibilité, on les donne pour un mois les 70% de leur salaire, et puis s'ils ne trouvent pas un autre poste, ils sont carrément virés. Les gens qui n'ont pas rempli l'état pour avoir la retraite, ils n'ont pas le droit à la retraite. C'est complètement inimaginable. Alors pour les femmes qui avaient les soins des enfants, la maternité, etc., les congés qu'ils prenaient, et ça ne compte pas pour les années de la retraite, les femmes n'auront pas de retraite avec ce système-là. C'est toujours, bien sûr, c'est suivi par le secteur privé. Le secteur privé, à partir du moment où l'État fonctionne comme le capitaliste le plus féroce avec ces mesures-là, le secteur privé devient encore plus féroce, comme vous comprenez. Il n'y a aucune assurance pour les employés dans le secteur privé, absolument rien. Il y a des contrats pour 2 mois, et après on vire les gens et on les reprend, mais pour ne pas comme ça avoir des revendications, etc. C'est une situation complètement lamentable. La femme, dans cette situation, est devenue le tampon souple privilégié. C'est-à-dire, on l'utilise là où il y a des demandes et puis on la vire dehors. C'est-à-dire, les femmes maintenant, surtout les jeunes femmes, sont appelées de couvrir les demandes de la restauration avec des prix avec des rémunérations très très bas. Je vous donne un exemple, dans les cafés, les filles travaillent pour 3 euros par heure. Elles peuvent travailler jusqu'à 8 heures, mais d'habitude, on lui demande de travailler encore davantage sans être payé. Parce qu'il paye seulement pour 8 heures. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le système politique et l'espace public changent complètement en Grèce. Comme on a la Troïka qui donne des ordres et le gouvernement suit ses ordres toujours, il n'y a pas la démocratie finalement. Ce qui est en cause en Grèce à ce moment-là, c'est la démocratie même. Parce qu'il n'y a aucune négociation. Si la démocratie, c'est l'art de la négociation entre les citoyens et leur organisation interposée, les syndicalismes, les organisations syndicalistes, etc., maintenant, ça n'existe pas du tout. Le langage politique se construit en termes militaires. On est en crise, on est à la guerre. Oui, on utilise toujours, oui, taquise mon mari, me corrige, oui, il a raison. C'est l'état d'urgence. Alors, il faut faire comme à la guerre. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas un dialogue. Il faut obéir. Alors, ce qui est complètement clair en Grèce à ce moment-là, c'est qu'il faut obéir les ordres, autrement on n'aura pas d'argent. C'est la peur. Tout le monde a peur. La société a peur d'être licenciée, de ne pas avoir d'argent. On a manque de médicaments. D'ailleurs, il y a eu une représentation, une délégation des médecins français qui sont venus en Grèce au printemps pour amener des médicaments, etc. Parce que c'est toujours la menace. La menace et la peur. Ça, ce n'est pas la démocratie, bien sûr. Pour les femmes, c'est encore pire, parce que le langage politique devient machiste. C'est l'ordre et la violence. Vous faites ça ou vous n'avez rien du tout. Et en plus, pour les femmes, c'est comme c'est un langage militaire, la femme est obligée d'aller à la maison et d'aider l'homme pour mener les batailles. C'est comme ça maintenant. C'est un luxe, l'égalité. Tout est devenu un luxe. Je vais vous assurer que la société grecque est tellement culpabilisée ces 4 ans. On est culpabilisé d'avoir des droits sociaux. On est culpabilisé d'avoir des revendications. On nous dit tout le temps, on nous fait sentir, notamment Troïka, notre gouvernement, bien sûr, nous fait sentir qu'on était des enfants gâtés, qu'on demandait le luxe d'avoir le travail. Il n'existe pas maintenant dans le vocabulaire politique grec le terme droits sociaux. Ça n'existe pas du tout. C'est comme si c'était des privilèges qu'avaient les employés, les travailleurs. Et maintenant que c'est une situation précaire, ces privilèges sont abolis. Alors ça, c'est très lamentable à ce moment-là en Grèce. L'autre chose qui est encore pire pour moi, que je suis historienne, c'est qu'on fait une rupture historique dans l'histoire sociale grecque. C'est comme si c'était une parenthèse l'époque où on avait des droits sociaux, comme si c'était une anomalie historique. Et je crains que c'est pour toute l'histoire européenne ça. Je le vois au langage de Merkel et de Troïka, c'est comme si c'était une anomalie historique de cette Europe qui avait des droits, qu'il faut l'Europe devenir Chine, ou Inde, ou je ne sais pas quoi, Singapour. Oui, il ne faut pas avoir des droits sociaux. Alors on voit dans la jeune génération qui est découpée de cette histoire sociale européenne et grecque aussi. C'est-à-dire les jeunes gens s'habituent se familiarise à ce langage et il croit presque normal qu'il n'y avait pas de droits sociaux, que ça c'est très très grave. Jusqu'à récemment, il y avait des gens en Grèce, la majorité, comme ça s'est passé bien sûr par les médias et dicté par le gouvernement, on avait l'impression que tous ces changements, c'est dû à la crise. Que c'est une fois la crise passée, nos droits vont revenir, etc. Maintenant, on a compris une chose, c'est la crise et le prétexte. Et ce qui est visé, c'est les droits sociaux et la démocratie. Et je vais vous donner un autre exemple, je ne vais pas m'attarder beaucoup pour donner l'état à la discussion. Et je vais vous donner un autre exemple pour ça. C'est qu'on n'a pas le droit à la grève. Formellement, officiellement, on a bien sûr le droit à la grève. Mais dès qu'il y a un syndicat qui déclare et annonce la grève, il y a tout de suite après le gouvernement qui vient, il fait une réquisition des employés. Il dit que c'est interdit, c'est un état d'urgence, alors la grève est interdite. Ça, on ne l'avait pas jusqu'à cette année. À partir de cette année, toutes les grèves sont interdites, comme ça, par réquisition. Et si quelqu'un ose de faire la grève, il est licencié, carrément. Alors, on voit que tous ces droits, et le grand coupable en Grèce maintenant, dans le langage politique, c'est le syndicalisme. Le syndicalisme est le grand coupable d'avoir gâté la société grecque. Alors, on construit un langage comme ça, qui fait à ce que la démocratie est visée à ce moment-là. Je vous donne un exemple, un autre exemple. On a eu la fermeture de la télévision publique, comme ça, sans avertissement, sans que ça passe par l'Assemblée, par le Parlement grec, il n'y a aucune discussion. C'était par décret présidentiel. Tout se passe maintenant en Grèce par décret présidentiel. On décide comme ça, sans avoir une discussion dans le Parlement. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif fonctionne, exerce en même temps le pouvoir législatif. Le Parlement reste, c'est vraiment une démocratie formelle. Il n'y a pas une démocratie essentielle. Alors, on a fermé la télé publique et on a viré, on l'a licencié, 2600 personnes, comme ça, même plus, personnes, dans une ère, sans être averties, sans rien du tout. Toute cette situation qui va, bien sûr, pour les femmes, ce que j'oubliais à dire, c'est évident que l'État-providence est devenu un luxe. On dit qu'on ne peut pas, pendant la guerre, avoir un état de providence. Les crèches sont fermées, la plupart des crèches. Les écoles de la journée, c'était pendant toute la journée, pour que les femmes puissent travailler, les enfants restent à l'école, sont fermées. Alors les hôpitaux, la plupart des hôpitaux, ou une partie des hôpitaux ferment, les hôpitaux publics, ce qui fait, comme a dit Lydie, et ça c'est un grand problème en Grèce, on n'a pas le droit de faire des tests diagnostiques, le cancer des seins augmente, le taux du cancer des seins, on n'a pas le droit de faire des tests microbiologiques prénataux, et bien sûr, pour les tests pour le sida, etc. Heureusement, bien sûr, parce qu'il y a un autre côté, de solidarité, les médecins ont créé des hôpitaux comme ça, sociaux, où ils font des tests diagnostiques, etc. Ils soignent le monde sans frais, etc. Mais je peux vous donner un exemple, parce que maintenant, aux hôpitaux publics, on demande une contribution. Il y avait une femme qui est allée Pour l'accouchement, elle n'avait pas l'argent, on l'a jetée dehors. Où il y avait une autre, où on a dit, dès qu'elle a accouché, qu'elle devait aller à la prison parce qu'elle n'avait pas l'argent. C'est vraiment une situation lamentable. Mais ce qui est pire, c'est comme l'État démocratique recule et on n'a pas des institutions de défense, il y a les partis nazis qui ont commandé. C'est-à-dire que dans cette situation où la politique se fait par ordre et pas en négociation, négociation constante et permanente, on a les partis nazis qui ont augmentation. Maintenant, il est le troisième parti en Grèce. Je vais vous assurer que jusqu'à 2009, on ne savait pas qu'il n'y avait pas ce parti. Il avait un taux de 0,05%. C'était rien, absolument rien du tout. Et maintenant, il a plus de 15%, si vous pouvez imaginer. Ce parti, alors, diffuse un langage pas seulement antidémocratique et nazi, complètement nazi, mais machiste, de machisme très très féroce et très violent. Je vais simplement, et je vais en finir là, on revient à la discussion, je vais vous citer, si je le trouve, ce qu'elle a dit, la femme du leader, du chef de ce parti, la femme qui est bien sûr elle aussi membre du Parlement grec maintenant. Alors je vous cite, nous les femmes grecques, membres de l'Aube Dorée, ça s'appelle comme ça le parti, ayant conscience de la destruction provoquée à la société à cause de l'esprit féministe qui prédomine, nous sommes contre toutes sortes de déclarations sur l'égalité des sexes. La soi-disant libération de la femme l'a désorientée de son rôle essentiel, qui est la maternité sublime. La seule obligation et honneur suprême pour la femme est d'accoucher et élever des enfants, assurant ainsi l'avenir de la patrie et de la continuité de la nation. Nous croyons que la maternité est un devoir sacré. C'est ça. Mais ça, ce n'est pas un parti seulement qui l'a dit, on dit c'est un parti nazi. C'est que ce parti maintenant, pendant la crise et avec cette situation de la démocratie en Grèce, a un impact énorme, notamment sur les hommes qui se sentent frustrés, comme ils n'ont pas maintenant un travail, ils ne peuvent pas exercer leur masculinité. Oui. À l'espace public, il revient dans la famille, on a la violence qui commence à augmenter et beaucoup d'autres choses. Alors je vous remercie et je reviens.
On sait des choses sur la Grèce, on en lit dans les journaux, j'avoue que ça dépasse tout ce que j'imaginais, quoi. C'est absolument époustouflant ce que tu racontes. Incroyable, incroyable. Et on se demande pourquoi ils s'acharnent sur ce pays-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, faire un exemple. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que c'est à cause des politiciens grecs, hein, c'est-à-dire à cause de la droite et malheureusement du PASOK, qui c'était un parti socialiste, c'est-à-dire qu'ils ont laissé la Grèce un pays sans défense. Parce qu'il faut avouer que les politiciens grecs, surtout les partis politiques au pouvoir, ils ont gaspillé l'argent public. C'était un État en grande partie et corrompu. Alors, ces partis politiques ont laissé la porte ouverte, grande ouverte, à cette situation. Bien sûr, ça, ce n'est pas la seule explication, parce que la corruption, ça n'existait pas seulement en Grèce. Ça existe dans beaucoup de pays et ce n'est pas un phénomène comme ça. Mais je crois que comme la démocratie était assez récente en Grèce et les droits sociaux étaient assez récemment établis, c'était beaucoup plus facile pour la Grèce que dans un autre pays. C'est mon interprétation. Et il y a une autre chose, plus si vous voulez élaborer, que je pense tout le temps ces dernières 4 années. Si pour le capitalisme, l'axiome était toujours de diviser, diviser et régner, ce qu'il y a maintenant, ce qui revient, c'est la séparation, la division entre nord et sud. C'est-à-dire que le sud méditerranéen était toujours des emparessés, des indignes. Alors, on avait l'espace fertile pour faire élaborer des idées comme ça, que ces pays, parce que ce n'est pas par hasard, si c'est d'abord la Grèce, ces pays qui sont l'extrême sud, bien sûr, c'est Chypre aussi, vous avez vu comment on a traité, parce que je comprends très bien qu'il y a des États avec des problèmes, des États corrompus et tout ça. Mais d'utiliser ces termes, ces langages pour des peuples entiers, ça c'est vraiment révoltant. C'est-à-dire, j'étais à Paris au mois de mars, quand il y a eu la décision pour Chypre, ces banques, etc. On a défini un peuple entier en tant que des voleurs, ça c'est inadmissible. Alors je crois que c'est la grande offensive du capitalisme et qui commence par des pays où il y a toujours une fragilité historique qu'on les considérait toujours, qu'on peut diviser plus facilement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer par la France, parce que la France est un pays de culture, de la Révolution française, etc. Mais par des pays du Sud, c'est beaucoup plus facilement, comment on dit, j'ai l'impression qu'on vit une époque de la colonisation. Si on prend de l'époque de la colonisation, les prétextes et les langages que les colonisateurs trouvaient pour aller coloniser les autres pays, c'est vraiment le même langage. Je ne peux pas faire maintenant l'identification des périodes historiques différentes, mais c'est vraiment la même chose. Alors on dit que la société grecque sont des paresseux. Moi, que je travaille, mes parents, mes grands-parents, etc., je connais une société qui travaille tout le temps. Mais bien sûr, il y a une mafia des riches qui... Vous voyez, excusez-moi que je prends comme ça la parole, mais ça me vient.
Tu es là pour ça.
Oui.
On a tellement envie de t'entendre.
Alors, on a accusé la Grèce d'être un pays, un État corrompu, et que les politiciens, les partis politiques au pouvoir étaient corrompus, etc. Mais vous imaginez que l'Union européenne et Merkel a fait l'alliance avec ces partis corrompus contre le peuple, contre la société. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un changement. Et quand l'année dernière, on avait les élections et on a vu que le parti de gauche allait prendre le pouvoir, Merkel et tous les leaders de l'Union européenne, ils ont fait des interventions complètement antidémocratiques pendant les élections en Grèce, en disant qu'il ne faut pas parce que la gauche va vous prendre l'argent, etc. C'est-à-dire, on fait l'alliance avec les corrompus. Pour sauver quoi, finalement? On n'a pas imposé des impôts au grand capital grec. Hein? Ils sont enrichis cinq fois, je ne sais pas combien de fois de plus. Hein? Et pour ça, j'ai dit, la crise est le prétexte. Ce n'est pas la crise et le problème. La crise est le prétexte, les droits sociaux. Parce qu'on n'a pas imposé rien du tout au grand capital grec. Hein? Ça passe comme ça. Ils sont les seuls de très riches, ils vont aux îles de Mykonos et ils payent 1000 euros pour une champagne au bord de la mer. Ils restent toujours sans être touchés, sans rien du tout. Alors, je crois que la Grèce était, comme il y a cette division toujours sud et nord, la Grèce était la plus... Oui. Tu peux intervenir, toi aussi, parce que tu vis les choses.
Oui, et en même temps, ce peuple grec est un peuple extraordinaire. On finit par oublier, mais c'est quand même un des peuples européens qui se sont libérés eux-mêmes pendant la guerre, même si leur victoire leur a été volée tout de suite par l'intervention des Anglais. Ce qui est quand même une histoire incroyable aussi. Vraiment pas de peau quand même. Ouais.
Ça, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement pour les femmes et les droits sociaux. Ce que je vois, c'est qu'il y a une rupture historique. Pour nous, les historiens, il n'y a pas qu'un passé, il y a plusieurs passés. Et par rapport à notre idéologie et notre appartenance politique, etc., qu'on choisit le passé. Maintenant, on veut finir avec un passé européen de résistance et tout ça, et on commence par la Grèce. C'est-à-dire, j'étais invité par des historiens français, etc., et par des députés européens cette année pour voir l'histoire que l'Union européenne prépare pour l'Europe entière. Alors, c'est la coupure profonde entre cette époque de résistance et on prend les fils de l'époque du 19e siècle, on fait un saut comme ça, vraiment, comme s'il n'y avait pas la résistance, je vous assure, vous pouvez le lire dans l'Internet, on a vraiment comme ça, on fait le topidima, on jambe comme ça, on efface complètement cette époque de résistance. Alors ça n'existe pas. Pourtant, hier, on parlait de Manolis Glezos, c'est lui qui a arraché le drapeau nazi sur l'Acropole pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a maintenant 94 ans et il est d'un esprit très clair, il parle très bien tout le temps, etc. Et en fait, il y a cette coupure historique. Comme... Ah oui, oui, et c'est la division toujours, ce n'est pas la division des nations seulement, c'est la division dans la société même. L'improfession contre l'autre, les travailleurs contre les travailleurs, les secteurs publics contre les secteurs privés et l'inverse, c'est la division complète.
Et ça a de l'écho chez nous, parce que je crois que vous avez vu le film « Les jours heureux ». Hein, ça nous rappelle tout à fait ça, quoi. Il faut détricoter tout ce qui s'est construit en France, d'après certains capitalistes et politiciens de droite, tout ce qui s'est construit à la libération, quoi, sur quoi on vit encore aujourd'hui. Voilà. C'est terrifiant ce que tu racontes. Hein. Avec ton joli accent, là, tu nous fous la trouille. Hein. Ah, mais il est adorable.
Si je peux me permettre, quand même, au regard de ce que dit Sia, ce que l'on observe, c'est l'utilisation des stéréotypes, chaque fois. C'est-à-dire le stéréotype des gens du Sud qui sont des flemmards, le stéréotype des femmes qui doivent être à la maison, voilà. C'est à la fois, c'est un outil, un support, vraiment, qui ressort avec une force énorme.
Bon, vous avez peut-être des choses à dire aussi sur tout ça. Est-ce que vous êtes aussi sidéré que nous? C'est quand même impressionnant. Hein. Alors, qui est-ce qui veut la parole?
Pardon. Je m'appelle Takis. Je suis le mari de Sia. Juste une constatation pour vous montrer que ça arrive doucement à l'ouest de l'Europe, cette situation. Il y a quelques jours maintenant, on a doucement, très discrètement, on a commencé à lire, à d'ouvrir une discussion sur les jours de travail par semaine. Et on a commencé à parler pour 6 jours de travail. Vous comprenez? Le droit de travail, comme on l'a appris aux universités, ça change totalement. 6 jours de travail par semaine.
Je fais une petite parenthèse, là, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles qui arrivent de Grèce, il y a aussi en Grèce un parti de résistance hein, qui s'appelle le Syriza, c'est ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est une espèce de front de gauche hein, un peu... assez divers, hein, il y a plusieurs, un peu comme le nôtre, sauf qu'il fait 25%, ce qui est énorme, et qu'il aurait pu gagner s'il n'y avait pas eu ce que tu disais, ces interventions incroyables de Merkel et les autres, quoi. Et qui peut-être gagner s'il y a si par hasard il y a de nouvelles élections un jour, et qui est un parti quand même assez impressionnant.
Vous avez raison, parce que comme on a eu la montée et la hausse des partis des nazis, etc., il y a une résistance de la société grecque. Alors ce parti Syriza, qui est une fédération de petits partis, et heureusement qu'on l'a fait en Grèce, parce qu'on avait toujours cette division de la gauche, alors on a fait cette fédération. Alors ce petit parti qui avait 4% aux dernières élections de 2009, il a sauté vraiment à 27%, ça qui a terrorisé complètement, terrifié Merkel et l'Union européenne. Ça, on l'a compris parfaitement. Mais ce qu'ils font maintenant en Grèce, si vous me permettez, si tu me permets, Marcel, ce qu'ils font en Grèce, c'est d'identifier le parti des nazis avec Syriza. On dit toujours, c'est les deux extrêmes. Alors, ce n'est pas... Oui, oui. Ce n'est pas la norme. Ce n'est pas normal. Alors, c'est les deux extrêmes. Alors, dès que Syriza condamne une politique du gouvernement et de la Troïka, on commence à dire par les médias, parce que les médias sont complètement, comment on dit, oui, aux ordres du gouvernement, et ils commencent à dire, non, ils condamnent parce qu'ils sont des extrémistes, ils déclarent, ils annoncent la grève, ils appellent le peuple de résister, etc., parce que la résistance est devenue quelque chose d'extrême maintenant. Et pour ça, je vous dis que c'est la démocratie en cause. Mais je crois qu'aux prochaines élections, c'est Syriza qui aura les élections. Et j'espère que ça va être la boule de neige pour toute l'Europe. Vraiment, parce que j'ai l'impression, ce n'est pas que c'est mon parti Syriza, ce n'est pas pour ça. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le moment pour la gauche maintenant. Si ce n'est pas comme ça, on est perdu pour l'Europe, pour toute l'Europe. Je le crois.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis pas surprise de ce qui nous est dit sur la Grèce et de l'état de déliquescence de tous les droits sociaux. Je pense que là, on a atteint effectivement un développement, je dirais pour l'instant, maximal par rapport aux autres pays d'Europe. Mais il me semble qu'en France, on avance bien dans cette direction. Je sais pas, tu parlais par exemple du système de soins. Aujourd'hui, en France, si tu veux être soigné rapidement, c'est à coup de dépassement d'honoraires dans le privé. Si tu veux attendre le public, là c'est un problème, et c'est en train de se mettre en place de manière significative. À l'université, c'est pareil. On a là aussi une dégradation avec l'application de la LRU de la situation, qui effectivement frappe principalement, de fait, les étudiantes, que ce soit en termes de recrutement, voire de formation, hein, celles qui abandonnent les études. C'est toujours, c'est plus souvent les filles. Et moi, effectivement, ce qui m'inquiète, c'est ce que tu rappelais pour la Grèce, c'est-à-dire des gens qui ont oublié les conquêtes et le fait que finalement les droits sociaux, d'une part, c'est normal, c'est nécessaire. Et c'est vrai que dans le langage, par exemple, des jeunes à l'université, pas seulement à l'université, quand on leur dit « battons-nous pour, par exemple, garder les retraites et un certain nombre de droits », on nous répond « nous, c'est pas notre bataille ». D'ailleurs, on ne sait pas s'ils ont une bataille pour certains. Notre bataille, c'est trouver un emploi. Voilà. Et on arrive à tout un tas de choses décalées. Ce sont les jeunes femmes qui, effectivement, disent « mais pourquoi aller travailler pour, 600 euros, 500 euros ?» Autant rester à la maison, etc. Il y a tout ce travail, concrètement, tout ça qui se met en place. Et avec derrière, effectivement, des changements d'idéologie. C'est-à-dire ce qui nous paraissait gagner... moi j'appartiens à la génération 68, donc ce qui nous paraissait gagner il y a assez peu de temps, on est en train de se rendre compte que dans le discours, même les femmes revéhiculent ce contre quoi on s'est battu. ce pourquoi on s'est battu. Moi, je dirais que c'est ça qui est très inquiétant. Et je crois qu'effectivement, il est temps que la gauche, alors, je dirais pas celle que nous avons en ce moment au pouvoir, en tout cas pour moi, donc notre, je dirais, l'équivalent du mouvement en Grèce, le Front de Gauche, il est vraiment temps que, enfin, qu'on arrive à déboucher sur des solutions et des propositions politiques qui réintéressent les gens, qui parlent de leur quotidien et qui les fassent se remettre en mouvement.
Oui, vous disiez, les femmes, certaines femmes disent autant rester à la maison, mais il y a pire. Il y a aussi la montée de la prostitution, hein, par exemple chez les étudiantes. Quand même, un truc qui commence à être inquiétant. Hein. Alors, qui a demandé la parole ? Par ici.
Après ce que tu nous as décrit de l'atmosphère politique en Grèce, moi j'aimerais savoir justement la résistance dont tu es, comment elle se vit au quotidien et est-ce qu'elle peut se vivre ? C'est-à-dire quelles sont les mesures de rétorsion, comment ça se met en place cette résistance dans la vie quotidienne ?
Ça, c'est l'intéressant, c'est qu'il y a la solidarité qui se crée même dans les quartiers. Ça a commencé par les quartiers. Alors, il y a, comme on dit, un supermarché pour les pauvres. Alors, tous les gens du quartier offrent ce qu'ils peuvent. Un peu d'argent, des médicaments, des sucres, du lait, etc. Alors, les gens... qu'ils se trouvent dans une situation précaire, que personne ne travaille de la famille, etc., c'est, ils vont et ils peuvent les prendre sans, ce n'est pas payé. Alors, il y a les hôpitaux sociaux que les médecins ont créés. Ça, c'était vraiment un grand soulagement pour la société grecque. Et merci aux médecins, aux infirmières, qu'ils partent de leur travail et ils assument 8 heures d'avantage sans être payés pour conforter les gens. Et ce que je veux vous dire, c'est le secteur public, les hôpitaux encore qu'il existe, les écoles encore qu'il existe, alors les gens, les médecins et les infirmières, parce que j'ai eu la chance, comme j'ai des parents âgés, d'aller dans un hôpital grec, les médecins et les infirmières travaillent hors de leur puissance. Ils travaillent des heures impossibles pour soigner les gens. Vraiment, j'étais ému tant de fois. Et vous voyez, dans les masses médias, on avait toujours l'accusation des médecins, des infirmières, qu'ils ne travaillent pas beaucoup, qu'ils prennent d'argent comme ça en cachette, etc. Et ces gens... Alors, je veux dire qu'il y a une solidarité qui se crée dans la société grecque et qui fait le recul de cet individualisme qu'on avait jusqu'à 2009. Et c'est quelque chose de très encourageant, mais c'est que c'est ça que j'insiste, c'est qu'il ne faut pas que le secteur public soit détruit. Parce que c'est là la solidarité qui se crée. Parce que dans le secteur privé, si on paye, ça va. Si on ne paye pas, on est foutu. Mais dans le secteur public, il y a une autre situation. Je vois les professeurs dans les lycées, parce que maintenant, les lycées, l'éducation secondaire, comme on dit, en Grèce, c'est complètement détruite. Et alors là, dans les lycées, il y a l'impact du parti nazi extraordinaire. Et les professeurs essayent de garder comme ça, d'éduquer les enfants. Pourtant, ils sont toujours menacés d'être licenciés, de parler de politique. Le gouvernement veut que les enfants restent comme ça, sans défense, devant le parti naziste qui s'introduit dans les écoles. Et on a l'adolescence maintenant très, très influencée par le parti nazi. Les professeurs font leur travail malgré les menaces, malgré tout ça. Je veux dire, cet esprit de solidarité qui commence à regagner la société grecque. Oui, des syndicats aussi. Oui, c'est. Oui. Oui, pas trop, mais quand même, on avait des divisions syndicalistes que maintenant, on les surmonte. On a compris, les syndicalistes, qu'il faut avoir un mouvement syndicaliste homogène pour tous les travailleurs, pas seulement sectorial, etc. Non, ça, c'est, ça commence à bouger. On espère qu'à partir maintenant du mois de septembre, il y aura de grandes manifs encore en Grèce, qu'on les, on va pas les laisser tranquilles. C'est ça, il ne faut pas la tranquillité à ce moment-là. Et ce qu'elle dit là, dame, tout à l'heure, c'était très intéressant ici pour la France. Je vais ajouter, moi, si, vous, si tu me permets, Marcel, il ne faut pas fermer les yeux. Ce que je reproche à nous, les Grecs, c'est qu'on voyait les immigrés d'arriver comme ça, en masse, en Grèce, dans une situation complètement lamentable. Et je disais toujours aux étudiants à l'université depuis 2000, même avant, que pour nous les historiens, quand on a des migrations massives, ça veut dire que ça ne va pas quelque chose. Ça va pas, il y a quelque chose de très grave et on a des changements politiques. Nous, les historiens, nous disent quand il y a des grandes masses et vagues de migration, ça veut dire qu'il y a des changements politiques très graves qui arrivent. Je le disais tout le temps, il ne faut pas être aveugle à la situation des immigrés en Grèce. Et en plus, nous, la moyenne bourgeoisie, on fermait les yeux à la prolétarisation de la classe ouvrière. On ne voyait pas qu'il y avait quelque chose qui passait. Alors ça, je le reproche à nous. On croyait que ça ne nous concerne pas. Nous, on pouvait aller aux hôpitaux, etc. Et on ne faisait pas attention qu'il y avait à côté de nous des gens qui étaient vraiment... On croyait pas. On croyait pas. On croyait que ça ne nous concerne pas. Et pour ça, je vous l'ai dit, si vous me permettez, aux autres sociétés européennes, de ne pas fermer les yeux. La Grèce n'est pas une exception. Ça va devenir la règle. Et pour ça, il ne faut pas fermer les yeux.
Alors, je crois qu'il y a un jeune homme qui voulait parler, c'est toi ?
C'était surtout pour rebondir par rapport à ce qui avait été dit.
Vas-y.
Enfin, j'ai un petit peu réfléchi, j'étais un petit peu en colère.
Plus près du micro.
Parce que, voilà, moi je fais partie de cette génération qu'on a appelée la bof génération, des 68ards qui nous ont mis ça sur le dos parce que. Je sais pas, parce que c'était pas la même police, enfin c'était pas la même époque aussi. Il faut comprendre plein de choses, qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. Et si on veut une lutte aussi, faut penser aussi au conflit de génération. Je pense que c'est important, pas contre le privé public. Et pour pas que ce soit quelque chose de ringard, faut intégrer les jeunes, les enfants très jeunes, et pas dans quelque chose de peut-être pas de scolaire aussi, mais montrer qu'une lutte aussi, c'est ça peut être beau, qu'on peut rencontrer des gens, des humains et vivre des émotions. Et voilà, bon, c'était juste ça. Parce que j'ai milité dans des endroits, on m'a toujours coupé, on m'a dit ouais, tu peux pas comprendre. C'était, il y avait une espèce de nostalgie un peu, de quelque chose de frein à main. Voilà, mais c'est ce que j'ai ressenti. Voilà.
Ouais, j'avais envie de rebondir exactement là-dessus parce que je sens quand même beaucoup de mépris, souvent des 68ards pour les gens plus jeunes. Et c'est marrant parce que ça m'a effleuré ce matin. Je me suis dit faire des débats passionnants comme celui de ce matin à partir de 10h du matin. Alors qu'il y a plein de jeunesse à Uzès, n'est qu'à danser et bu jusqu'à 4h du matin.
Ils n'ont qu'à se coucher tôt.
Mais il ne faut pas leur proposer des bœufs à 2h, Marcel. Donc, par exemple, moi j'héberge un jeune homme qui m'a expliqué que il va partir bosser au Mexique parce que là-bas, il peut, il n'a pas des trucs administratifs à remplir pour faire de la bouffe. Il l'a fait chez lui, il la vend dans la rue et puis paf, quoi. Enfin, ça, c'est effrayant, quoi. Ou il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un jeune musicien français qui va bosser à Berlin. Parce que, à Berlin, tu fais, on ne demande pas de cotiser. Et quand tu commences à vouloir parler, tu penses à la retraite. Bon, attends, j'ai 25 ans. Oui, mais tes parents, moi, je paye la retraite de mes parents en ce moment, ça me fait plaisir. Il y a quelque chose, effectivement, tu te dis, il y aurait des choses à remettre en question. Et par exemple, le jeune homme là que j'héberge, il ne connaît pas le Larzac. Il s'intéresse à Notre-Dame-des-Landes. Je vais parler du Larzac, de la lutte du Larzac. Il n'a jamais entendu parler, quoi. Et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'à UZEST, il y a toute une génération de syndicalistes qui auraient plein de choses à dire. Il faudrait qu'ils acceptent peut-être que ben, les jeunes, c'est plus eux, désolé. Et moi non plus d'ailleurs, hein, je veux dire. Non, mais c'est dur d'admettre qu'on n'est plus les jeunes, quoi. Surtout quand on a été 68, hein, je crois. Et je me dis, il y aurait une super transmission à faire, quoi. Mais pas à 10h du matin, ça je crois que c'est un souci. Non. Et puis le proposer comme ça, excusez-moi, non, mais il y a une réalité à UZEST. Ça attire de plus en plus de jeunes, et puis des jeunes quand même qui sont pas, voilà, c'est pas. Une génération abrutie, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Mais bon, ils sont individualistes, ils sont hédonistes, et voilà, c'est les fruits d'une éducation, hein, que leur ont donné des parents 68 ans. Donc, je sais pas... Non, mais je veux dire qu'il y aurait peut-être à imaginer une transmission comme ça à UZEST, mais peut-être à un autre moment, et puis là-dessus, c'est-à-dire qu'une université pour les jeunes, entre guillemets, les moins de 32 ans, je sais pas, quelque chose de l'ordre de la transmission... dites comme ça. Bon, Bernard va peut-être m'engueuler parce qu'il va me dire que c'est comme ça, mais je trouve que ça manque peut-être de ça dit, enfin comment dire, annoncé tel que avec des horaires qui seraient plus réalistes, voilà.
Alors, Lydie, est-ce que c'est les hommes qui vous ont obligé à faire vos débats le matin quand les gens sont encore...
je vais faire une transition sur mes 68, comme ça... Moi, je suis un pur produit de mai 68, puis je suis né en février 69. Voilà. Donc, comme ça, tout est réglé. Je voulais juste revenir aux femmes, parce que il me semble que c'était le sujet. Profitant de la Grèce, parce qu'on a trouvé le moyen de faire ce qu'on reproche aux autres, c'est-à-dire parler de la crise et oublier les femmes. De nouveau, c'est-à-dire tomber à parler de la crise et oublier les femmes dans la crise. Donc, c'était... Peut-être, qu'est-ce qui se passe en Grèce? Est-ce que les femmes se conforment à ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire se mettre à ne parler que de la crise et du coup s'effacer de nouveau et arrêter de revendiquer? Ou est-ce qu'elles s'organisent pour continuer à maintenir leurs droits et à revendiquer? Voilà.
Lucia a commencé à le dire, hein, tout à l'heure.
Oui, bien sûr. Les femmes s'organisent aussi. Il y a le mouvement féministe n'a pas cessé en Grèce. J'ai parlé du gouvernement. Le gouvernement considère que c'est un luxe, l'égalité des sexes maintenant. Pour nous, les femmes, ce n'est pas le luxe, bien sûr, c'est un droit. Un droit acquis et un droit qu'il faut négocier tout le temps. Alors, il y a le mouvement féministe qui est assez fort maintenant en Grèce, sauf que comme pour les autres domaines, on ne peut pas faire passer nos revendications au gouvernement. C'est ça le problème. Ce n'est pas que les mouvements syndicalistes aussi, les mouvements sociaux existent, bien sûr, et ils sont beaucoup plus forts qu'avant, avec une conscience de résistance, mais sauf qu'on ne trouve pas les moyens d'obliger le gouvernement de négocier avec nous. Vous comprenez, c'est ça le problème à ce moment-là. Ce n'est pas que ça n'existe. C'est, hein? C'est la guerre, oui, c'est la guerre complète.
Merci. Vous avez dit les écoles sont fermées. Vous pourriez nous préciser qu'est-ce qui est fermé, qu'est-ce qui reste, comment ça se passe?
Tout d'abord, c'était les écoles de la campagne. Alors on a dit, il n'y a pas suffisamment d'enfants, on va fermer les écoles. Ce qui veut dire que les enfants d'un village, vous connaissez un peu la géographie de la Grèce, ce n'est pas une géographie facile, c'est-à-dire il y a une île avec 1000 habitants. Alors, on ferme l'école et les enfants sont obligés d'aller à l'île à côté. L'hiver c'est impossible ça, parce qu'il y a le vent. Oui. Ou un village de montagne, les enfants sont obligés de faire un parcours de je ne sais pas combien de kilomètres pendant l'hiver, parce qu'avant on avait l'autobus qui faisait les services comme ça, et gratuitement pour les enfants d'un village à l'autre. Maintenant, l'État ne paye pas les autobus. Alors, les familles sont obligées soit de déménager et d'aller dans une grande ville, dans une ville de la région, soit de laisser l'enfant sans éducation. Ça, c'était la première mesure. Maintenant, c'est une autre mesure. On avait les lycées professionnels, comme on dit, les lycées techniques, où il y avait des orientations pour des métiers, pas pour l'éducation générale, mais pour des métiers comme des métiers de santé, etc., que c'était les lycées secondaires. Alors maintenant, on ferme toutes ces écoles en faveur des écoles privées. Alors cette année, au mois de mai, le gouvernement a annoncé la fermeture de ces écoles techniques et le lendemain, le ministre de l'Éducation a fait un contrat privilégié avec un collège privé pour que les enfants aillent à des écoles comme ça. Ça veut dire qu'on vit des moments, et j'ai fini avec ça, on vit des moments, vous savez, avec des grandes conquêtes des sociétés, des droits sociaux, etc. Le capitalisme a reculé, il a accepté qu'au moins les gens sont égaux au départ et à la fin de leur vie. C'est-à-dire que l'éducation, c'est pour tous, et les hôpitaux, pour tous, pour la fin de la vie. Maintenant, c'est fini ça, on n'est pas égaux. C'est-à-dire que si tu as l'argent, tu peux avoir l'éducation, si tu n'as pas, c'est fini. Il y a pas, il y a une destruction du contact entre ville et campagne. La campagne est complètement maintenant détruite parce que comme les enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils sont obligés d'aller dans les grandes villes, la campagne sera complètement déserte. Oui.
Juste un petit mot, puisqu'on parle d'éducation et d'enfance et de campagne, je vais répondre à Sylvie. Elle est partie ?
Non, tu es là.
Je suis d'accord avec cette critique et je suis d'accord pour que tu t'en occupes à partir du mois de septembre, parce que ici c'est la campagne, vous êtes tous là, et à partir du mois de... Dans 15 jours, vous serez tous partis et il n'y a plus personne ici. Tous les enfants vont à la ville, nos enfants sont au lycée, à l'université ou au conservatoire. Alors on se bat, nous, pour proposer des réactivations ici, des week-ends où ils viennent travailler, et que je suis parfaitement d'accord avec toi des carences qu'il y a ici sur la jeunesse. Je pense que ce sont aussi les carences de la société actuelle, du capitalisme que nous avons dans la tête. Je pense que c'est plutôt ça que l'individualisme. C'est plutôt l'individualisme, j'y crois pas tellement, puisqu'on a tous les mêmes bagnoles, on va tous dans les mêmes festivals, on est grégaire, quoi. On n'a pas beaucoup d'individualité dans cet individualisme-là. C'est un mot bizarre, individualisme. Bon, mais je te propose de t'en occuper, pas toute seule, mais comme on est voisins, mais tu vis à Paris aussi. Donc, on est dans la problématique ville et campagne, difficulté. Et donc, il faut que tu viennes proposer de ton intelligence solidaire pour qu'on puisse arriver à confronter ces contradictions, ces difficultés. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est l'éducation. Voilà. Et comment on fait avec ça? Eh bien, tous ensemble, à vous de jouer, à nous, on fait tout ce qu'on peut. Voilà, c'est juste par ça, je suis d'accord avec ta critique, évidemment.
Encore quelqu'un là?
On parlait des fondamentaux tout à l'heure. Parce qu'il me semble le truc qui manque quand même, on a parlé de la Grèce en disant, ben voilà, on est en train de remettre en question les acquis sociaux de l'après-Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui a été acquis pendant le temps de résistance et tout, c'est terrible. Mais la Grèce, c'est quand même le berceau de la démocratie. Et ça, c'est des acquis de 2000 ans qui sont remis en question. Donc, Voilà, les acquis sociaux sont remis en question, la démocratie est remise en question. Ça, c'est encore plus grave, quoi. Enfin, ça laisse un peu rêveur devant la logique du capitalisme, quand même, qui n'est pas compatible avec la démocratie, finalement. Enfin, c'est un peu... Parce que là, on est vraiment à l'aboutissement du capitalisme, voilà, qui peut que se fracasser contre le mur. On le voit au niveau de l'environnement, c'est latent. On n'est pas sûr de pouvoir éviter le mur. Mais même au niveau de la démocratie, le capitalisme, enfin, je veux dire, donc, il faut vraiment réfléchir à autre chose, quoi. Ça remet en question les acquis de 2000 ans, quoi. C'est grave.
Même si on peut faire des réserves quand même sur la démocratie grecque d'il y a 2000 ans, hein, qui était quand même fondée sur l'esclavage. Et les femmes... peut-être une dernière intervention, Lydie.
Très court, simplement, deux choses. Quand vous dites la fin de la démocratie dont nous parle Sia, vous dites que c'est encore plus grave. La question, c'est que la démocratie, elle se tricote avec les droits sociaux. Hein, c'est ce que disait Sia. Et c'est en ça que la gravité, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de fiche en l'air un certain nombre de valeurs qui font que la crise est aussi une crise culturelle parce qu'il y a des objectifs. Et on peut avoir l'impression que le capitalisme est au pied du mur, peut se fracasser, peut-être. Mais peut-être que pas forcément. Parce que hier on discutait et on disait, mais ça va jusqu'à détruire l'histoire. Quand on voit aujourd'hui que c'est Marcel qui me racontait, je crois que... mais il y a d'autres exemples. Pour m'expliquer, à Paris, un hôtel du XVe siècle qui est en train d'être détruit, pour y mettre un hôtel qui va rapporter du fric, où est-ce qu'on est ? La Chine qui a détruit plein de maisons du centre de Pékin, des maisons anciennes du centre de Pékin, pour construire des grands immeubles. Voilà, on est aujourd'hui dans un capitalisme qui détruit l'histoire, non seulement de façon symbolique, à travers les valeurs, à travers la destruction des droits sociaux, mais aussi de façon physique.
Non, par rapport aux interventions, c'est l'intervention de Sia tout à l'heure sur l'idée de ne pas fermer les yeux. Parce que j'ai l'impression qu'on a un débat là, où on observe de l'extérieur ce qui se passerait. Voilà. C'est-à-dire on n'est pas impliqué. On regarde, on écoute, on émet un jugement, un truc comme ça. Et qu'est-ce que ça nous renvoie à nous dans le quotidien sur notre intervention? Alors elle se fait ici, elle se fait dans nos quartiers, elle se fait dans les entreprises, mais on ne peut pas... Enfin, il faut qu'on arrête de se mettre en spectateur passif, quoi. Moi, je suis désolé, j'ai l'impression parfois qu'on est comme ça. Voilà. Donc, l'USES, justement, c'est une barricade. Cette barricade, Bernard disait, elle dure une semaine toute l'année, mais une semaine, là, on est là. Quand on rentre chez nous demain, comment on y va? Parce que quand même, moi, j'en ai un peu marre de ces discours-là, de syndicalisme ringard, USES ringard. Voilà. Toute l'année, il y a des batailles. Toute l'année, il y a des bagarres. Le 10 octobre, le 10 septembre, il y a une manifestation en France unitaire pour combattre la politique du gouvernement. Il y a des manifestations européennes. La dernière qu'on a faite, c'était au mois de mai, juin. On était 300 à Bordeaux, j'exagère, voilà. Et on est spectateur. Donc la question, c'est comment on passe de spectateur à acteur de sa propre vie. Et en étant acteur de sa propre vie, ça pose la question de l'égalité des femmes et des hommes dans l'entreprise. Comment on travaille ça? Comment vous le travaillez dans vos tôles? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se renvoie les choses comme ça. Comment vous travaillez de chez vous? Demain, on va avoir le débat avec la place des hommes dans cette bagarre-là. Comment on y va, là? On est spectateur encore, on se fait des échanges fort intéressants, mais comment on y joue? Voilà. C'est cette question-là, moi. Voilà. L'engagement dans ces batailles-là. Parce que ce qui se passe en Grèce, on voit bien quand même, on n'est pas complètement con. Ce que vient de nous dire Sia... C'est ce qu'on vit depuis des années, de façon latente. Et on regarde des coups qu'on prend sur la gueule. Alors je dis, j'exagère, parce qu'il y a des luttes, machin, mais bah, il faut qu'on aille plus loin, là, la question des alternatives politiques à les poser. Voilà, bon, je réagis comme ça un peu, parce qu'il y a des moments...
Il nous fait une grosse colère, là, des masses. Alors, est-ce qu'il y a encore une intervention ? Fabienne.
Est-ce que, je voudrais savoir, est-ce que le parti de gauche, Syriza, c'est ça ?
Syriza.
Oui, propose la sortie de l'Union européenne, qui est quand même l'outil magnifique du capitalisme néolibéral.
Non, pas du tout. Mais au contraire, Syriza propose qu'il y ait une solidarité entre les peuples européens. Et si il faut détruire l'Union européenne, c'est toutes les sociétés, tous les peuples européens que nous devons le faire si cette Union européenne continue à cette voie. Mais jamais Syriza n'a proposé une chose pareille. On l'a utilisé énormément que Syriza avait fait sortir la Grèce de l'Union européenne, que c'est complètement, complètement erroné.
Moi, je voulais profiter de la possibilité d'avoir quelqu'un qui peut témoigner en direct et pour rebondir sur ce que tu disais sur comment la Grèce d'aujourd'hui peut peut-être inventer le monde de demain dans une logique écologique. J'ai entendu qu'en Grèce, ils se mettaient beaucoup de choses en place autour des circuits courts, de la relocalisation de l'économie, les liens directs entre la production agricole et les consommateurs. Je ne sais pas si ça existe vraiment parce que j'en ai juste entendu parler. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ?
Maintenant, à ce moment-là, comme c'est la situation et comme le gouvernement fait la politique, il n'y a rien du tout comme ça, rien du tout. On essaye quand même, les mouvements écologistes, etc., de ne pas oublier ça aussi, parce que c'est ça, c'est l'oubli tout le temps, vous comprenez ? C'est ça notre problème. Il y a bien sûr même Syriza, un programme, sur ce que vous avez dit, les mouvements écologistes aussi. Mais à ce moment-là, l'écologie, c'est la dernière chose qui en occupe le gouvernement, et Troïka.
Enfin, j'entendais écologie au sens large, et j'entendais surtout la répartition de valeurs différentes, c'est-à-dire, j'avais entendu que, par exemple, il y avait les gens ne peuvent plus se payer la nourriture qui est dans les supermarchés, et que, par contre, il y a des producteurs qui viennent proposer leurs produits sur le parking du supermarché.
Oui, j'ai oublié ça. Il y a des producteurs de pommes de terre, par exemple, des fruits, etc. Ils vont pas seulement au supermarché ou à dehors du supermarché, aux grandes places d'Athènes, Sydagma, par exemple, que c'est la place centrale. Et il y a plein de monde. Ils viennent, les producteurs de la campagne. Ça, c'est un autre rapport qui se crée entre la campagne et les villes. Et les producteurs viennent soutenir ces peuples parce que vous comprenez. Oui, et c'est toujours les grandes villes qui souffrent. Comme ils sont éloignés de la campagne, de la production, c'est les grandes villes qui souffrent. Alors, ces rapports. Et c'est très bien que vous m'avez rappelé. Ah oui, alors on a un autre problème, Takis me rappelle aussi. On a le parti nazi qui fait des marchés comme ça, que c'est seulement pour les Grecs et les Blancs. Et il interdit aux émigrés d'aller s'en profiter. Alors, il y a un grand bagarre maintenant à Athènes. Heureusement que le maire d'Athènes a interdit à l'aube dorée d'utiliser le parti nazi, de faire des choses comme ça, soit c'est pour tout le monde, soit c'est pour personne. Alors, on a des bagarres idéologiques et politiques sur ce niveau aussi.
Oui, Corinne, et puis je crois que ce sera la dernière intervention.
Oui, moi, après ce que nous a dit Sia sur la condition féminine et comme les droits des femmes ont été particulièrement attaqués, je pense que quand on entend ce que tu viens de nous dire, à tous, il faut qu'on se mette dans la tête que la revendication sur l'égalité femmes-hommes, ça ne peut pas être une revendication de deuxième... deuxième catégorie, mais qu'on voit vraiment comme c'est important d'avoir cette revendication en tête de toutes les, de toutes nos revendications. Et c'est compliqué, même dans notre pays, encore à porter ces, ces questions-là. Et on voit bien que même en France, le premier des droits qui a reculé, c'est bien le droit des femmes. Petit à petit, c'est ce qui nous arrive. Alors, c'est vrai que c'est difficile, après tout ce que tu nous as dit, de comparer la Grèce à la France, sauf que dans le mécanisme qui est mis en place, on voit bien les mêmes choses se traduire dans notre pays, que ce soit les droits des femmes attaqués, la flexibilité avec l'accord de flexibilité, la nouvelle réforme des retraites que l'on nous annonce. Enfin bon, bref, je ne vais pas tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit être tous conscients effectivement de ce qui se passe, que ce n'est pas des petits coups, mais c'est des grands coups que le capitalisme nous assène. On est bien d'accord. Moi, je pense que c'est pas arrivé comme ça. C'est pas une fatalité non plus. La crise de 2008, quand elle a éclaté, c'était pas une fatalité non plus. On est face à un capitalisme à bout de souffle qui essaye de s'en sortir, qui a bien des aides, les aides des financiers, les aides de la Troïka, tu l'as bien décrit, et compagnie. Bon. Sauf que voilà, on n'a pas intérêt, nous, aujourd'hui, et tout va passer par le mouvement social. Et c'est là où je pense que, effectivement, soyons conscients de ce qui se passe, mais aussi, disons-nous que j'ai envie de faire. Après le film qu'on a vu sur les jours heureux, Stéphane Hessel, ce qui disait « Indignez-vous, indignons-nous ». Et l'autre résistant disait « Oui, mais ça ne suffit pas, il faut oser et agir ». Et aujourd'hui, c'est de ça dont on a besoin, c'est de oser et d'agir. Et c'est sûrement pas de se diviser ou de se... Aussi bien entre les pays européens, moi je suis dans un syndicat qui est la CGT, à la CGT, avec la Confédération européenne des syndicats, on porte la question de l'Europe sociale très forte. Parce qu'on sait que si on gagne des droits sociaux en Europe, on pallie, on arrête le dumping social. C'est ça aussi. Et je pense que ce soit la jeunesse, elle se mobilisera d'autant plus si on porte des revendications d'avenir. Pas seulement à défendre les acquis, mais en étant capable de porter un vrai projet de société dans lequel chacun a envie de s'inscrire, parce que c'est là où on arrivera à réduire les inégalités. Et aujourd'hui comme demain, il ne faut pas avoir peur, non seulement de s'indigner, mais au fait d'oser et d'agir. Le 10 septembre, il y a un appel à une manifestation pour la défense des retraites, mais aussi pour l'emploi. Et les salaires. Et je pense que l'ensemble des salariés, on est tous concernés par ça, mais il faut aussi être en alerte constante, voir ce qui se passe dans les autres pays européens et gagner cette solidarité entre les travailleurs européens, parce que le patronat a déclaré une guerre sans merci au monde du travail. Et nous avons, nous, la capacité de leur répondre, mais il suffit d'y croire.
Bon, alors la dernière intervention, là, elle a déjà parlé, hein, mais elle leur demande.
Alors je vais reparler, je vais mettre les points sur les i. Ici, on est un foyer de résistance qui est précieux, mais je crois que, enfin, tout ce qui est communisme, monde du travail et tout, je crois que, enfin, vous n'êtes plus dans le bon train, quoi. Maintenant, les choses, ça se passe au niveau de l'écologie. L'écologie, c'est pas la défense des fleurs. Et je veux dire, quand vous avez l'air de découvrir que le capitalisme, il est à l'aboutissement, il est à son dernier souffle, et vous écoutez le moindre débat avec les écologistes, ils le disent clairement. Là, je me souviens même plus du nom de cet homme-là, qui faisait un débat écologiste, avec cette connotation ringarde, quoi, superficielle, on va dire, plutôt. Mais il développe que le capitalisme est tellement malade comme système intrinsèquement que là, il est en train de produire les choses qui le détruisent lui-même. Enfin, je veux dire, lisez Pierre Rabhi, lisez Patrick Vivray. Il y a urgence, quoi. Là, il s'agit de refonder des valeurs. Je crois que vous parliez de valeurs hier. Vous disiez, ça dépend de la société, Lydie. La société Ça dépend quel système s'empare des nouvelles idées. Ça dépend de quelles sont les personnes, ce qu'on en fait, le sens qu'on y met. Ben voilà, on y est au sens.
Je voudrais juste te dire deux choses. C'est que le fait que le capitalisme produit ce qui va le détruire, il y a un certain Karl Marx qui en avait parlé quand même il y a un certain temps déjà.
Ah, mais moi, je ne renie pas du tout Karl Marx. C'est magnifique. C'est la suite des gueules. Ouais. Moi, j'aime encore plus ces gueules.
Mais, par ailleurs, bon, on ne va pas s'engager dans un débat sur l'écologie. Parce que les écologistes, il y en a qui disent des choses très intéressantes, d'autres pas. D'autres pas. Un certain Cohn-Bendit, par exemple, je peux dire, ne m'emballe pas.
Oui, moi je voudrais juste dire, justement, intervenir juste un petit peu, parce que justement, là, j'ai parlé de ce terme l'autre jour au cours de la conférence sur la filière bois, justement. J'ai fait ce rapprochement entre économie et écologie. Moi, c'est un de mes dadas. Je crois que les deux termes ont la même racine. Éco, ça veut dire gestion. Et économie, c'est la gestion des biens. Écologie, c'est la gestion de l'environnement, mais pas seulement de l'environnement, des biens. Et c'est, je pense que les deux termes ne sont pas du tout antinomiques. Et que, voilà, c'est une affaire de gestion intelligente et de respect de l'environnement, des hommes, etc.
On est tout à fait d'accord, on est fait pour travailler ensemble. Bon, je crois qu'on va être obligé d'en finir là, pour aujourd'hui, hein, mais ça va continuer demain.
Donc, merci pour ces échanges. Juste avant de conclure, en effet, je crois que Corinne, Alain et notre dame qui a remis un petit peu au centre de ce qu'était notre débat sur l'impact quand même sur les femmes. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'en effet, la stratégie, l'a dit Alain, n'est pas complètement stupide, mais c'était important d'avoir ce témoignage de SIA. La stratégie qui est mise en place est la même aussi chez nous, la culpabilisation, les conflits entre les populations, entre les différents secteurs professionnels, entre les différentes générations, avec un impact extrêmement important sur les femmes. Par rapport à l'emploi, il l'a bien exposé à travers le partenariat qu'on a, à travers le service public qui est mis à mal, notamment l'hôpital, hein, puisqu'on a combattu toute l'année, depuis un certain nombre d'années, pour la non-fermeture des centres d'IVG, les maternités, etc. On le rappelle, c'est aussi les femmes qui sont du coup attaquées. Le travail mixte sur l'égalité, je le rappelais tout à l'heure, enfin je le disais dans mon intervention, pour notre organisation, il est extrêmement important parce qu'on n'est pas dans deux mondes parallèles, mais bien dans le même. C'est pourquoi on vous propose demain un deuxième temps de débat où on posera la question sur les hommes acteurs de l'égalité, parce que voilà, on travaille avec eux, on est ensemble sur le travail, dans la vie, donc c'est important que tout le monde puisse se poser la question et qu'on puisse être entendu. Et tout à l'heure, madame, vous disiez les femmes et qu'est-ce qu'on peut faire. Je crois que le fait d'être dans une organisation syndicale qui est une commission mixité, qui nous permette de travailler spécifiquement cette question, en lien également avec les associations féministes de notre territoire, etc., permet évidemment de faire avancer l'ensemble de notre organisation et de fait d'être entendu dans les instances, etc., afin que ce soit pris en compte. Et je crois que c'est surtout ça dont on va parler demain, c'est comment est-ce qu'on l'articule après dans notre travail, dans notre vie, mais surtout demain, ce sera évidemment dans la sphère professionnelle. Voilà, merci et à demain.
Merci à tous, merci aux techniciens qui nous ont fait un boulot impeccable, parce que sans eux, hein, on peut toujours causer, mais ça ne s'entend pas. Merci. Et puis, pour finir, je voudrais dire que une femme debout et résistante, c'est beau à voir et beau à entendre.